Voilà, donc moi, le titre que le Seigneur avait mis dans mon cœur, c'est « Qui sont les bâtisseurs du royaume ?» Et la réponse sont les fils. Et les fils sont conduits par l'Esprit. Donc j'avais aussi Romains 8 dans mon cœur. Et tu parlais de cette confrontation. Enfin, moi, je vais le dire autrement, mais je vais dire la même chose. Il y a vraiment, on est dans cette confrontation de deux royaumes. Et je sais pas vous, mais bon, c'est vrai qu'on allume la télé, mais on l'éteint aussi, parce que si on la laisse trop allumée, après, on est très très découragé par tout ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et j'ai envie de dire, on dit, enfin, en tout cas, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Où est la justice? Où est l'amour? On voit bien que tout part à volo, quoi. Hein. Et il y a vraiment cette confrontation. Alors, en même temps, on sait que le royaume de Dieu, il avance. Et il y a ce verset dans Matthieu 6 qui nous dit « Cherchez premièrement mon royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et en fait, cette histoire des bâtisseurs du royaume qui sont les fils, donc ceux qui sont conduits par l'Esprit, ça c'est dans Romains 8 qu'on le trouve, sont les fils. Et en fait, il y a une chose qui m'a interpellée, c'est que Dieu nous parle beaucoup de pierre, aussi de construction. Hein, il dit de nous qu'on est un temple. Alors je vais quand même prendre quelques passages de la Bible plutôt que de les commenter parce que ça fondra, mais c'est par rapport à ce surnaturel, par rapport au règne de Dieu, par rapport à la puissance de Dieu et du Père, et je vais déjà rentrer par là, oui. En fait, en hébreu, le mot « pierre » est une contraction du mot « père » et « fils ». Et ça, c'est une révélation que ça m'a, waouh, ça m'a transpercé, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens. On est appelé des pierres vivantes. Voilà. Et pour moi, alors là, je vous la fais courte, mais c'est quelque chose qui travaille mon cœur depuis des années. Dieu nous parle souvent du Echad, de l'unité. On parlait de puissance tout à l'heure. Quand on lit la parole, on comprend bien que la division, elle affaiblit. Et on voit bien que l'ennemi ne fait que ça. Il amène la division dans les familles, il amène la division dans la société, il amène la division en nous, puisque tout à l'heure on parlait de la souffrance du corps. En fait, on est Echad, nous aussi, on est trois. Hein, on est esprit, âme et corps, et je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je suis sur ce chemin-là, où des fois, ce que je vis dans mon esprit, j'aimerais bien que ça coule plus dans mon âme et mon corps. Il y a encore un écart, si je peux dire les choses comme ça, quoi. Hein. Alors c'est vrai que quand on est tous ensemble, il y a vraiment cette onction communautaire qui nous porte. Hein. Alors je le crois, que chacun on amène notre contribution à cette onction, qu'on vient pas pomper ou siphonner l'onction, hein. Mais ça je le crois. Hein. Donc après moi je suis pas là pour sonder les cœurs et les reins comme on dit, mais voilà, je parle à partir de moi. Et on voit bien qu'il y a cette puissance dans l'unité, dans le Echad, voilà. Et en fait, l'histoire de la pierre, la contraction du Père et du Fils, ça nous ramène vraiment à cette mission de Christ, quoi. Yeshua HaMashiach, il est venu quoi? Il est venu annoncer le Père, il est venu apporter le Père, il est l'image du Père. Et à la fois, il est aussi ce chemin qui mène au Père, quoi. Voilà. Et ceci étant dit, j'avais à cœur de commencer par Daniel 2. Moi, je ne sais pas vous, mais alors on ne va pas tout lire, mais Daniel 2, 31 à 45, donc c'est l'histoire du roi Nabuchodonosor qui a un rêve avec cette fameuse statue à la tête d'or et tout ça, donc je vous fais grâce de toute la statue, mais on va s'arrêter quand même sur les pieds. Parce que ces pieds sont faits, alors je vais, non je vais quand même lire parce qu'autrement je vais trop me perdre là, à essayer de rattraper des passages. Donc Daniel 2, 31-45, voici donc au roi la vision que tu as vu une grande statue, cette statue était immense et d'une beauté éblouissante, elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. Écoutez bien ça parce qu'il est question des royaumes de la terre avec cette statue. Et c'est des choses que nous, enfin en tout cas moi je les reçois dans mon cœur parfois, hein, par rapport aux puissants de ce monde, par rapport à ce qui se passe sur la terre. La tête de cette statue était en or pur sur la poitrine et les bras et en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes de fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les parties de la statue et puis décomposer puis expliquer tout ce que ça veut dire et les royaumes, c'est pas mon propos. Pendant que tu étais, mais si vous voulez le faire, faites-le. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main. Vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile, elle les pulvérisa. Du même coup furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle du blé qui s'envole de l'air en été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, alors nous allons l'exposer au roi. Donc là, on va aller plus loin. J'ai pas le verset en tête, mais c'est pas grave. À l'époque, Daniel interprète le rêve. À l'époque de ces rois-là, donc on est au quatrième royaume en fait, hein, je saute tous les autres royaumes avant. Le Dieu des cieux suscita un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence. Mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est digne de foi. Et nous, on est là. On est... Alors c'est verset 44-45, merci. Et nous, on est vraiment dans ce moment où voilà, on voit qu'il y a ces alliances, hein, ces alliances qui ne peuvent pas tenir. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est voilà. Et donc pour moi, ça me parle de quoi? Alors je vais quand même rajouter à ce passage de Daniel, un passage dans Éphésiens 2:20. 2:20 à 22. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Voilà. Et là, il est question du peuple de Dieu avec Israël, bien entendu. Hein, je ne vais pas non plus en parler, c'est pas mon sujet. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que Dieu nous parle de cette construction, il nous parle avec des pierres. Alors qu'est-ce que nous on en fait aujourd'hui? Alors par rapport à ça, alors comment dire, ce texte de Daniel pour moi, il nous montre que Dieu est à l'œuvre, effectivement, et on a besoin, j'ai envie de dire, avec l'histoire de la pierre, qui est cette contraction du Père et du Fils, nous sommes des pierres vivantes, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir le Père en nous, et d'avoir cette communion avec le Père. Et pour moi, si vous voulez, le Seigneur me parle beaucoup comme ça, il s'agit du psaume 91 à l'ombre de ses ailes, mais il s'agit aussi de l'arche de Noé. C'est-à-dire que l'arche de Noé, si on regarde bien, c'est la même chose. En fait, l'arche, c'est comme si Dieu, il a fermé lui-même la porte. Hein. Il y avait une fenêtre au-dessus, mais en hébreu, si on prend les textes en hébreu, c'est pas vraiment une fenêtre, c'est une lumière d'en haut. Ça veut dire que l'arche, elle était éclairée par la lumière d'en haut. Voilà, on va pas rentrer dans les détails de l'arche, comment les animaux ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé et tout, parce que il y a l'histoire des temps aussi, hein. Il y a le chronos, mais il y a le temps éternel et tout. Alors il y a toutes sortes d'enseignements là-dessus. Je vous invite, si ça vous intéresse, à y aller. Mais c'est pas ça mon propos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on Jésus parle des derniers jours et il dit, il en sera comme au temps de Noé. Et on a besoin d'être protégé dans cette arche comme Noé l'a été. Et cette arche, c'est aussi l'arche de, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'arche de Aaron, aussi de Aaron, hein, où il y a la loi. Luc, la semaine dernière, tu nous as parlé de la loi du royaume, hein, les lois de Dieu, mais de l'amour. T'as dit que la loi, et qu'on oppose souvent ça. Alors c'est tout à fait ça, quoi. Dieu est un Dieu d'ordre, il est aussi une protection, il est une puissance, mais il doit être obéi. Voilà. Et c'est, il est question de la crainte de Dieu. Alors c'est vrai qu'en français, la crainte, on dit que l'amour parfait bannit la crainte, mais craindre Dieu, c'est pas en avoir peur. Craindre Dieu, c'est l'honorer, c'est le respecter, et c'est se soumettre dans l'amour, c'est-à-dire j'ai vu qui tu étais, tu t'es révélé à moi, et j'ai décidé de te faire confiance et de marcher main dans la main. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que le texte de Daniel 2, pour moi, ça me rassure, parce que il y a cette pierre qui représente l'Église, hein, donc qui nous représente, nous, qui représente le peuple de Dieu, et il y a Jésus qui dit, je crois que c'est dans Jean 10, qui dit « Ne craignez pas, petit troupeau, il a plu au Père de vous donner les clés du royaume. » Alors oui, c'est vrai, quand on se regarde les uns et les autres, on est qui ? On est qui pour la terre, hein, je veux dire. Mais on est des fils de Dieu. Alors je dis des fils, on est des filles, mais je prends le mot fils, hein, vous comprenez bien là. Hein. On est dans l'esprit, il n'y a plus ni homme ni femme, voilà. Et Dieu nous a donné les clés du royaume, voilà. Maintenant, il y a deux chemins, toujours devant nous. Hein, et il y a, pourquoi je parle de cette communion? Pourquoi je parle de traverser toute cette tempête dans l'arche? Parce que si on y va avec nos moyens humains, on voit bien que ça va pas, ça, comme diraient les jeunes, ça va pas le faire. Hein, voilà. Et en même temps, je vous dis ça, mais en même temps, on sent bien que si on n'est pas rempli dans l'esprit, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis rempli dans l'esprit, je suis enveloppé, il n'y a rien qui m'arrête, il n'y a rien qui me fait peur. Par contre, si je ne suis pas dans l'esprit, si je ne suis pas dans l'onction, je pourrais même avoir peur d'une fourmi, quoi, hein. Ça c'est notre nature quoi, parce qu'en fait on a été réconcilié, on est insécurisé parce que on ne sait pas, comme on dit, le passé est certain mais l'avenir est incertain si on ne regarde pas aux promesses de Dieu, si on n'est pas dans la présence du Père et si on ne marche pas sur les promesses. Puisque les promesses, c'est effectivement, je repense à toi Luc qui nous parlait la semaine dernière de tout, des chiffres de ceux qui lisent la parole, hein. Et les promesses de Dieu, elles sont écrites dans la parole. Et voilà. Et c'est vrai que si on marche que sur nos émotions ou sur, j'ai envie de dire la manne, hein, pour reprendre l'exemple de la parole, la manne c'est la nourriture des anges, c'est la nourriture spirituelle, la manne d'une certaine manière. Et si on n'a pas la manne chaque jour, elle va être mitée et puis elle va pas nous donner des forces et nous nourrir, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment cette invitation à être un avec le Père. Et Jésus a dit que celui qui l'aime, c'est celui qui fait la volonté du Père. Donc quand même, on a une bonne définition de l'amour, là. Et effectivement, l'amour, c'est pas des sentiments. L'amour, c'est une décision. Mais c'est vrai que l'amour a un prix. Et oui, le Seigneur, il a tout donné pour nous, parce que ce qu'il a payé, le prix que lui il a payé, on pourrait pas le payer. Mais on a aussi notre part à faire pour être fils, quoi. Mais c'est juste une décision. Et j'aime beaucoup ce verset de Amos 3:3 qui dit, si je le cite de tête, hein, lorsque deux veulent marcher ensemble, il faut qu'ils se mettent d'accord. Donc, je redis, l'obéissance, la soumission est un acte volontaire d'amour. Et Dieu n'est pas un maître dur. Dieu est un père. J'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qui ont cette image de Dieu comme un Dieu comme Baal, quoi. Hein. Et ça, c'est le faux Dieu. Et on le sait bien qu'il y a le faux Dieu. Voilà. Et on rentre dans des temps, oui, le Seigneur est à la porte, on l'entend beaucoup, on le voit, ça peut pas durer comme ça encore des siècles, j'ai envie de dire, même peut-être des dizaines d'années. Et on dit Maranatha en hébreu, ça veut dire viens Seigneur avec empressement. Mais maintenant, plus on va se préparer, plus on hâte le retour du Seigneur. Voilà. Et c'est quoi se préparer? Ben c'est ça en fait mon message. C'est d'être ces pierres vivantes, c'est-à-dire d'avoir le Père à l'intérieur de nous et d'accepter aussi l'ordre. C'est-à-dire l'ordre que Dieu a mis en place et c'est-à-dire les autorités. Parce que je vais pas... L'autorité, ça nous protège. Tu en as parlé tout à l'heure aussi, Luc, de l'autorité. Voilà. Et je vais pas encore continuer trop loin, mais je voudrais quand même juste dire que entre, il y a, dans Romains 8, l'apôtre Paul nous parle de l'esprit d'adoption. C'est ça en fait. Cet esprit d'adoption, c'est d'accepter de faire partie de la famille de Dieu et d'accepter que Dieu est notre Père et de faire cette relation de fils à Père. Voilà, ça c'est l'esprit d'adoption. Mais en face de l'esprit d'adoption, il y a un autre esprit. Et ça, on le connaît aussi, parce qu'on a encore dans notre cœur, on a deux esprits. Alors, j'ai envie de dire, c'est le cœur d'orphelin. Quand on vient au Seigneur, on a un cœur d'orphelin, j'ai envie de dire, à 100%. Et quand on rencontre le Père, on l'invite à rentrer dans notre cœur, et plus on va manger sa parole, c'est-à-dire plus on est en communion avec lui, plus on écoute, plus on ouvre nos oreilles spirituelles et notre cœur, et plus on va recevoir cet amour du Père qui est l'esprit d'adoption, et on marche dans cet esprit d'adoption, voilà. Et en fait, j'ai porté mes yeux sur l'histoire d'Absalom. Voilà, parce que c'est quand même une histoire dans la parole qui m'a interpellé. Alors j'ai passé du temps, et j'ai vu beaucoup de choses que je ne vais pas tout vous donner parce que il faudrait beaucoup de temps, voilà. Donc c'est pas le sujet. Mais comme vous savez, Absalom, c'est un des fils de David. C'était le troisième fils d'ailleurs. Et je veux juste vous dire que le premier, il est mort, puisque c'était le fils de Bathsheba. Hein, donc Dieu n'a pas voulu qu'il vive. Après, il y avait Amnon. Et Amnon, c'est celui qui a violé Tamar, la sœur d'Absalom. Et là, on voit que David, il n'est pas intervenu comme il aurait peut-être dû, effectivement, on peut le dire. Hein. Donc, et à Absalom, il a jamais digéré l'affaire. Et 2 ans après le viol de sa sœur, donc lui, il a pris sa sœur chez lui, il a même eu une fille à qui il a donné le nom de sa sœur. Bon voilà, après il avait aussi, il y a des phrases que je ne vais pas vous dire, mais on voyait qu'il avait aussi, par rapport à la loi de Dieu que Israël avait déjà, et par rapport à sa façon de voir la situation de famille, on voit qu'il était déjà un peu en décalage. Voilà, je vais être... Mais bon, ça je vous laisserai lire et vous constaterez vous-même. Mais du coup, il a mis en place, donc il a voulu se faire sa justice, parce qu'il ne supportait pas cette injustice. Et là, la relation avec son père a commencé à se gâter. C'est ça que je veux vous dire. Je reviens à nous avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses, des fois, dans nos vies qu'on vit, on ne comprend pas. On se dit, mais t'étais où, Seigneur? Parce que, je ne sais pas vous, peut-être c'est que moi, hein, mais moi, quand je reçois une promesse, alors ça peut être une prophétie, ça peut être un verset qui tape mon cœur, en général, je pars au galop. Et je me fais, avant, peut-être moins maintenant, parce qu'avec l'âge, on ne ralentit pas. Et puis, la sagesse, la maturité, ça nous alourdit un peu. Mais mon tempérament, c'est plutôt d'être fonceuse et de partir au galop. Et puis, franchement, je me suis pris des sacrés murs, quoi. Et après, je dis, mais Seigneur, je comprends pas. C'est toi qui m'as donné le cheval, c'est toi qui as mis le carburant dans la voiture. Et moi, je trace et boum, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, je voulais juste dire que c'est ça l'histoire entre le cœur d'adoption, le cœur d'orphelin. Et c'est cette façon où on, au lieu de recevoir, alors, il y a la direction, c'est-à-dire la vision, hein. Il y a l'identité, il y a l'appel, tout ça, bon voilà. Mais ça fait partie un petit peu, tout ce que je raconte là, ça touche à ça. Mais après, il y a le temps. C'est ce qu'on appelle les kairos, c'est-à-dire les alignements. Et tout ça aussi, il n'y a pas que recevoir la vision et la direction, il y a aussi recevoir la stratégie. Et ça s'appelle la sagesse. Et ça s'appelle aussi d'obéir et de dépendre du Seigneur. Parce qu'il y a des choses qu'on ignore. Parce que Dieu est maître du temps et des circonstances. Alors ça, je le sais aujourd'hui. Hein, mais je pense qu'il y a eu des moments où je ne le savais pas, ce verset. Voilà. Et donc, Absalom vous laisse faire justice. Et je vais vous passer les détails. Mais en gros, ce qu'Absalom il a fait, c'est qu'il a tué son frère. Donc, il s'est vengé. Et en fait, toute cette histoire de famille, mais c'est une folie, quoi. Et c'est issu du péché de David avec Bathsheba, quoi. Il a fait rentrer le meurtre, l'adultère et le viol dans sa famille. Et ça s'est perpétué. Et Nathan, le prophète, avait donné cette malédiction. Hein, et tout s'est accompli, quoi. Voilà, alors je vous fais grâce de tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si David... Il était un roi qui a fait des erreurs. Il était un père qui a fait beaucoup d'erreurs. Il a toujours gardé son cœur. Et dans Acte 13, alors j'ai pas le verset là, mais dans Acte 13, Dieu il dit qu'il a plus voulu de Saül et qu'il a choisi David parce que David est un homme selon son cœur. Voilà. Et c'est là que Dieu regarde au cœur et non pas à l'apparence. Et des fois, nous, on va juger ou on va se juger sur ce qu'on fait ou ce qu'on n'a pas fait. Ou ce que l'autre il a dit, ou ce que l'autre il a pas dit, voyez. Et dans cette histoire, moi j'ai vraiment été, moi j'ai été touchée, mais à un niveau que peut-être j'avais encore jamais été touchée par l'amour, la largeur, la hauteur et la profondeur. Ça aussi c'est un verset que j'avais préparé, mais de l'amour de Dieu quoi. Et vraiment c'est l'apôtre Paul qui prie pour que le Seigneur nous le révèle, qui nous révèle cette largeur, cette hauteur et cet amour illimité qu'il a manifesté en donnant Jésus, en donnant son fils, voilà. Alors pourquoi c'est important, après je veux juste terminer par Malachi, comme vous voulez. David, tout ça, Absalom, il a cherché à prendre la place de son père parce qu'il a méprisé son père, il a discrédité son père, il a dit j'ai plus confiance en lui parce qu'il fait pas justice, parce que, et il a essayé, donc il a ramené le peuple hein, à lui, il a séduit, enfin il a utilisé tous les fruits de la chair. On va le dire comme ça, hein. Toutes les stratégies charnelles pour prendre le pouvoir, quoi. Voilà. Donc c'est tout un exemple à pas suivre. Et puis on a des textes dans Galates aussi, on voit bien les fruits de la chair, les fruits de l'esprit. Donc vraiment la parole de Dieu, c'est notre guide de vie, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est où on doit se positionner. Mais ça, donc David a gardé son cœur attaché à Dieu, malgré tout ce que son fils a fait et que son fils a essayé de le tuer. Il l'a humilié, enfin bon, David, non, il a gardé son cœur attaché à Dieu, et en fait, il a pleuré son fils, et il a crié, il a dit, mon fils, hein, et c'est vrai que ça pourrait nous faire penser au Père, quand Christ était pendu au bois. On n'a pas entendu le cri du Père, mais on peut s'imaginer que le Père, il a dit, mon fils, quoi. Parce que quand on sait qu'il est Errad, on sait qu'il a souffert avec le fils, en fait le père. Et ça, voilà. Donc je voulais juste nous rappeler ça, parce que je vais aller maintenant, dans Malachi. Parce que vraiment on a ce cri avec l'histoire de l'esprit d'Élie. Voilà. Où Dieu nous dit dans Malachi 3, 23-24... Alors il y a 23-24, oui c'est ça. Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible, il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. Voilà. Et je voulais partager avec vous une chose que j'avais trouvée sur Malachi 3. C'est, il ramène le cœur des pères vers les fils. C'est un ordre divin. Et quand on prend la sacrificature d'Isaac, c'est un bouc qui est coincé. Et c'est pas un agneau, c'est un bouc. Et le bouc, c'est le père. Le bouc coincé, c'est la mort du père avant la mort du fils. Et ça, c'est une révélation que j'avais reçue aussi. Voilà, donc c'est pour ça que le père nous comprend. Parce que des fois, c'est vrai, quand on se focalise, on se dit, le fils, il a tout accompli, il a payé quoi. Mais en fait, le père, il est mort à lui-même, il est mort à sa puissance, il est mort à plein de choses pour que le fils puisse accomplir tout ça. Donc, le bouc coincé, c'est la mort du père avant la mort du fils, c'est le principe de l'héritage. Un fils hérite à la mort de son père. Il devient un patriarche de tout, mais avant, il y a une transmission et sa mission est d'aller plus loin. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce que le Seigneur nous a dit, qu'on ferait des plus grandes choses que lui. Alors, c'est sûr que c'est des sacrés défis et que s'il n'est pas en nous, si on n'est pas en lui, si on n'est pas comme dans Jean 17, moi Jean 17 je ne vous l'ai pas lu, mais c'est vraiment une prière et qui me tient, et je trouve que c'est une belle définition de l'esprit d'adoption, parce qu'on est vraiment dans cette famille de Dieu, on est à l'intérieur de lui, on est protégé, on est à l'ombre de ses ailes. Voilà, et je voulais terminer par le psaume 139, tu as parlé d'être tissé dans le ventre, et je voulais déclarer ce psaume sur nous, et que c'est vraiment comment dire, pas avec des yeux humains qu'il faut se voir, mais c'est avec les yeux d'amour du Père. Et effectivement, ça nous invite à pratiquer aussi la repentance, c'est clair. Et en hébreu, c'est teshuva. Teshuva, ça veut dire quoi? Ça veut dire retour à Dieu. Ça veut dire que si on s'égare, si on se détourne, eh ben ça, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose qu'on doit faire. Je parle pas d'auto-accusation. Je parle pas d'auto-condamnation. Je parle de si on sent l'esprit en nous quand il est pas bien, hein, quand on perd sa paix, c'est vraiment une attitude qu'il faut avoir. On a fait cette alliance avec lui, donc il faut aussi entretenir cette alliance de notre part, et c'est par cette teshuva. Voilà. Et ça, comme ça, on peut se voir comme lui nous voit. Attendez, je cherche mon verset. Ouais, ça y est. Alors, je veux déclarer ce verset. C'est le psaume 139, 13 à 18, mais c'est la version David Stern. Car tu as façonné mon être intérieur, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te rends grâce car je suis incroyablement fait, merveilleusement. Tes œuvres sont des prodiges, je le sais très bien. Mes os n'étaient pas cachés de toi lorsque j'ai été créé en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais un embryon, et dans ton livre tous mes jours étaient déjà écrits. Mes jours avaient été formés avant qu'aucun d'eux ne soit. Ô Dieu, combien sont difficiles pour moi tes pensées, qu'elles sont nombreuses, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Voilà, soyez bénis, et que qui vous êtes ne vous quitte pas.
Merci Agnès. Quand tu parlais de Pierre, là, la contraction de père et fils, ça c'est Pierre en hébreu, c'est Eb Ben. Donc Ben c'est fils et Ab c'est père, Abba. Et donc quand Moïse est allé chercher les pierres, les tables de la loi, les pierres de la loi, c'est père-fils. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que Dieu est, comme tu l'as dit, un Dieu de transmission. C'est un Dieu de transmission. Père, fils, la loi écrite dans nos cœurs. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Ça veut dire, comme tu l'as dit, je reviens sur quelques points qui me touchent particulièrement. C'est-à-dire que le Père qui est en nous, le Père et le Fils est en nous. Et nous sommes là pour transmettre. Et quand tu parles d'Absalom, il y avait ce texte de Samuel, verset chapitre 18, de son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, écoutez ça, je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui le monument d'Absalom. C'est comme, si vous allez à Jérusalem, il y a ce monument. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si le Père est en toi et que le Fils est en toi, tu vas transmettre le Père et le Fils et par l'Esprit. Et tu vas transmettre et tu vas lever des fils et des filles. Mais s'il y a cette carence du Père, de la paternité de Dieu en toi, et que tu ne lèves pas des fils et des filles, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des monuments. Il y aura un monument. Et parfois l'Église, quand elle ne transmet pas, il n'y a plus qu'un monument. C'est pour ça que la transmission, c'est dans le cœur de Dieu. C'est dans la loi, la pierre, Père-Fils, c'est ça vraiment. Quand tu as parlé aussi, ça m'a touché, de Erad, l'unité entre nous, le Père, le Fils, l'Esprit. Être un avec Dieu, c'est aussi être un avec nous-mêmes. Et je crois que là, il y a quelque chose de très grand que Dieu veut faire avec chacun de nous. Il veut nous unifier. Et quand il y a cette unité entre nous, dans notre vie personnelle, et avec Dieu, et avec les autres, alors il y a une force qui est incroyable. Alors Seigneur, vraiment merci pour cette matinée. Merci pour ce rappel que tu es un Père, que nous sommes tes fils, et que cette pierre de la loi, ça nous parle, que seulement les fils bâtissent. Seigneur, et nous voulons bâtir, nous êtes ces pierres vivantes, et bâtir le royaume, Seigneur, ensemble, inspirés par toi, jamais tout seul, mais tous ensemble. Merci pour la vision du roi et la vision du royaume, pour notre pays, pour l'éducation, pour tous les domaines de la société. Seigneur, nous sommes peut-être aux yeux des hommes petits et faibles, mais toi tu dis que nous sommes forts et riches. Merci Seigneur, que ta bénédiction repose sur nous.